la 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 la. Tu es le Dieu vivant, tu es toujours présent. Rien ne me sépare de toi, non, non, non. Ma vie de ton esprit, tu es tous les jours avec moi. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci Jésus pour ce bon moment que nous passons ensemble pour te rendre un culte et t'honorer, te glorifier, te rendre gloire en esprit et en vérité. Je te remercie Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous, effective, qui nous montre le chemin et qui nous bénit. Merci Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est bon. C'est bien. C'est bien. On va ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 4 ce matin, verset 23. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine et il lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. » Je vais vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vais poser ma Bible sur le piano parce que là, ça chauffe un peu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même, Jésus, c'est quand même une personnalité terrible. Encore une fois, Jésus fait une révélation phénoménale à une bonne femme qui ne pouvait pas du tout comprendre le sens de ses paroles. C'est curieux quand même que Jésus fasse ça. C'est quand même curieux. Là, il indique que pas de lieu, ni la montagne de Samarie, ni Jérusalem. Non, non, on n'adore plus, il n'y aura pas un endroit, ni le Vatican, ni Salt Lake City, ni Springfield, le Vatican des pentecôtistes, ni le château Sanctuary, ni rien, aucun lieu, aucun système. Non, non. Et il prend deux mots abstraits. Mais alors, s'il y a des mots abstraits, c'est bien ceux-là. Des mots abstraits parmi les plus inconcevables pour l'intelligence humaine. Esprit et vérité. Qu'est-ce que la vérité, dira Ponce Pilate quelques jours plus tard. L'esprit. L'esprit, il s'oppose à la matière. La vérité s'oppose à tout ce qui est apparence, tout ce qui est illusion, tout ce qui est erreur, tout ce qui est mensonge. Esprit et vérité. Donc, adorer Dieu en esprit, c'est abandonner les formes matérielles. C'est abandonner les formes qui limitent, qui emprisonnent, qui nous coincent dans le temps et dans l'espace. Et adorer en vérité, c'est adorer au-delà de l'illusion des sens et surtout des apparences. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent parce qu'ils ressentent quelque chose. Ce n'est pas la vérité, c'est encore des sens, c'est encore une histoire de sensibilité, de nerfs, de culture, etc. Vous voyez, une religion, c'est quoi? Ce n'est qu'une forme que l'esprit prend pour se manifester. Or, aucune forme ne peut demeurer inchangée. Aucune religion ne peut demeurer inchangée, parce que ce n'est qu'une forme. Regardez l'histoire. Où est né le christianisme? Au Moyen-Orient. Mais très rapidement, il a reçu des éléments de la culture grecque et de la culture latine. Très vite, au début, tout de suite. Et ces éléments grecs et latins se sont ajoutés aux éléments de la religion juive, qui existait déjà avant le christianisme, qui était un peu reprise aussi, beaucoup reprise dans le christianisme. Et la religion juive, elle avait elle-même été influencée par les religions des pays voisins. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas se leurrer. C'est la vérité. Regardez, étudiez les religions des pays autour et vous allez voir que les Juifs se sont beaucoup inspirés de tout ça. Une religion, ça ne naît jamais de rien. Elle reçoit certains éléments des religions antérieures. Par exemple, les religieux égyptiens et babyloniens, ils avaient des temples. Et David, sans Dieu leur rien demandé, David, il a voulu que Dieu ait un temple. Et voilà. Puis Dieu a dit, bon, ben, t'as bien fait, c'est bien. Mais Dieu ne l'avait rien demandé. Et la religion, elle se transforme aussi au fur et à mesure de sa diffusion au loin. Quand elle s'éloigne de son lieu d'origine, elle se transforme. Allez assister à un culte dans une église africaine et vous allez comprendre que ce que je vous dis, c'est vrai. Allez voir. Ça n'a rien à voir avec un culte dans une église française. Et les cultes pentecôtistes, moi je suis né dans le pentecôtisme en France, né de nouveau, eh bien, c'est une religion qui a été importée des États-Unis. Comme les jeans, le McDo. Et ça n'a rien à voir avec les cultes importés d'Allemagne, de Luther. Très sobre, très pompeux, très calme. Ou les Suisses, encore pire, avec Calvin. Hein? Très rigide. Moi, la première fois que je suis rentré dans une église pentecôtiste, je trouvais qu'il y avait une ambiance on se serait dit sur un stade de foot ou dans, je sais pas, un match de boxe. Ça criait Alléluia et tout. Puis attendez, maintenant ça a encore changé. Maintenant ils se roulent par terre. Mon Dieu. Il y a une distance entre ceux qui comprennent, parce que c'est toujours les mêmes textes qui sont pris, mais ceux qui les comprennent en Afrique et ceux qui les comprennent en Suisse sont eux-mêmes différents. Il y a une distance, donc, qui est due à cause du ressenti des gens, de leur culture, qui est différente. Et puis aussi des tempéraments. Les gens du Nord, ils sont très différents des gens du Sud. On est bien contents, hein? Vous avez vu, là, dimanche passé, nous étions chez Mélodie, Eric, Rachel, les enfants, Philippe, Marie-Claire. On a passé un temps formidable là-bas, dans le sud-ouest. C'était génial. Et vous avez vu comment ils sont sur le marché le matin quand on est allé. Et les gens, les voisins, comment ils sont sympas, comment ils sont gentils. Je ne dis pas que les gens normands ne sont pas gentils, ne sont pas sympas, mais c'est un autre tempérament. Donc la religion s'y manifeste autrement aussi. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes textes. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous aider à comprendre que l'évolution, c'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Il n'est pas raisonnable, il n'est pas spirituel de vouloir s'acharner à s'éterniser sur la forme de notre religion, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas spirituel. Ce qu'il faut vraiment, c'est veiller à ce que notre religion soit toujours vivifiée par le Saint-Esprit. Quand je dis notre religion, c'est-à-dire notre forme d'adoration. Et cette vivification par le Saint-Esprit, elle doit se constater. Comment ? Ben déjà, premièrement, dans le comportement des fidèles. Ensuite, dans l'approbation de Dieu par des signes miraculeux incontestables. Parce que vous pouvez être... Bon, je connais des gens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont gentils, on dirait des chrétiens. Camilla disait, il leur manque plus que le Seigneur. Ben, ils ont un comportement formidable, ça ne veut pas dire qu'ils ont la vraie religion. Hein? C'est vrai. Vous allez dire religieux, méchant. Donc, ce qu'il faut, en plus du comportement, donc, dans les membres, n'est-ce pas? Il faut l'approbation de Dieu, il faut qu'il y ait des signes, des miracles, quelque chose qui prouve, qui vienne de l'extérieur, qui soit surnaturel, qui prouve que, voilà, on est dans le vrai. Ceux qui sont en ordre avec Dieu sont des gens qui sont soumis à l'ordre établi par Dieu. Soumis à l'ordre établi, je veux dire, attendez, mais dans les détails, je ne parle pas simplement d'être soumis au pasteur, mais de payer leurs impôts correctement. L'autre jour, on sort du château avec Michou, juste derrière la voiture d'une sœur. Et elle a passé au stop, elle l'a carrément complètement ignoré, elle a grillé le stop. Eh bien, c'est une insoumise. Je suis désolé, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu. Et on doit faire, un disciple de Jésus, il doit faire attention à tous ces détails. Et il doit en arriver au point où il n'a même plus besoin de faire attention, ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de sa nature, la soumission. Serviable, de bonne volonté, honnête, c'est-à-dire pas seulement honnête, parce que si on lui rend trop de monnaie au magasin, ben, il la rend, c'est pas seulement ça, mais c'est honnête vis-à-vis de Dieu. Prendre part à l'œuvre de Dieu, en payant sa dîme, et les diverses offrandes, etc., etc. Être honnête avec Dieu, avec les frères et sœurs, avec l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont le comportement. Alors, un véritable disciple de Jésus-Christ, il élève ses enfants dans la crainte et l'amour de Dieu. En tout cas, jusqu'à leur majorité. Après, ça nous échappe, on peut plus, hein. Mais jusqu'à la majorité, c'est tu viens au culte, tu es là, et tu... Vous comprenez? C'est comme ça. Parce que Dieu nous a prêté ses enfants. Il ne nous a pas donné, il nous les a prêtés, et il veut qu'on les éduque. Mais si on n'est pas soumis, ben on ne les éduque pas, puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Bref, le comportement de celui qui fait partie d'une religion qui est vivifiée par le Saint-Esprit, il vit selon l'Esprit. Et non pas selon sa chair. Selon la chair, c'est tellement plus facile de renoncer, puis de dire, oh là, comme ça, je n'ai pas d'histoire, je m'en fiche. Non. Vous voyez, mes frères et sœurs, la colonne de feu et de fumée qui conduisait le peuple d'Israël, elle allait de l'avant, elle ne restait pas toujours au même endroit. Et quand Jésus est venu, c'était la colonne de feu, faite chair, qui marchait sur la terre d'Israël, et c'était Jésus sous une autre forme. C'était Dieu sous une autre forme. Et ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours, ils voulaient toujours garder leur même vieille forme, leur même vieux truc. Et nous, gloire à Dieu, on ne veut plus le vieux truc. On l'a créé, le vieux truc, mais on n'en veut plus. Ça fait 26 ans et maintenant, Dieu nous dirige autrement. Gloire à Dieu. On n'est pas content, mais bien sûr qu'on est content. C'est excitant. L'autre jour, je disais, c'est à qui que je disais ça? Ah, c'est au docteur. Je disais, moi, ça m'a foutu un coup de jeûne parce que ça me donne la possibilité d'entreprendre, de créer, de penser, de faire, d'être, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est fantastique. Jésus n'était pas juste venu pour opposer à la religion de Moïse sa religion à lui. Non, pas du tout. Ni pour opposer la religion des Samaritains à sa religion à lui. Pas du tout. Jésus ne parlait pas pour une religion en particulier. Vous savez, toutes les religions s'accrochent à des objets, à des lieux, à des dates. Alors certaines religions s'accrochent à Jérusalem, d'autres à la Mecque, d'autres au Vatican, d'autres à Salt Lake City, d'autres au Château Sanctuary. Tout ça, c'est charnel, c'est humain. C'est typique des religions humaines qui s'accrochent à un lieu, à des pratiques extérieures. Et je crois que si Jésus revenait aujourd'hui, il leur dirait la même chose. C'est ni au Château Sanctuary, ni au Vatican, ni devant le mur des Lamentations qu'il faut adorer Dieu. Hein. Mais qui le comprendrait s'il venait le dire aujourd'hui? Et qui le comprend quand il le dit au travers de moi aujourd'hui? Pas grand monde. Après 2000 ans, combien sont capables de renoncer au lieu qu'ils croient être bénis d'une façon particulière? Combien? Vous voyez, les chrétiens sont encore des enfants et les enfants, ils ont besoin pour comprendre qu'on leur montre des images, qu'on leur raconte des histoires. Hein, et les enfants, ils ont besoin d'objets concrets pour pouvoir... parce que beaucoup de choses sont abstraites, hein, comme esprit et vérité, c'est abstrait. Ils ont besoin de concret. Et dans le domaine religieux, la plupart des humains sont encore au stade de l'enfance. Au stade de l'enfance, ils ont besoin d'un lieu concret, d'objets concrets. Ils ont besoin de tangibles, tangibles. Qu'est-ce que ça veut dire tangible? Ça vient d'un mot latin qui signifie toucher. Ils ont besoin de pouvoir, pour percevoir quelque chose, ils ont besoin de le toucher. Au début, ils prennent conscience de leur corps. Alors, ils ont leur période buccale, ils mettent tout à la bouche. Vous avez vu, vous savez ça? Puis après, c'est la période anale. C'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont besoin de toucher. Notre religion, mon Dieu, les pauvres chrétiens, ils en sont où? À buccal ou anal? Je ne sais pas trop. Ils ne sont pas loin, en tout cas. Notre religion n'a pas besoin de tangible. Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est vrai, ils m'embêtent à la fin. Le tangible, c'est la matière. La matière, ça fait glisser vers l'idolâtrie. Quand Jésus reviendra, il dit, est-ce que je trouverai encore la foi quand je viendrai sur la terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il des gens qui auront été capables de renoncer à leur statut, à leur lieu de pèlerinage, à leur lieu de culte? Qu'est-ce qui se passerait si Jésus revenait et disait aux chrétiens de renoncer à tout ça et d'adorer en esprit en vérité? Il dirait, mais on adore déjà en esprit en vérité. Alors, il le croit, hein? Il le croit en plus. Pour l'immense majorité, ça serait le vide. Il serait désorienté. Désorienté. Mes frères et sœurs, seul un être très élevé, évolué, peut trouver en lui-même, le sanctuaire, le sanctuary, où il entrera pour s'adresser au Seigneur, en lui-même. Seul un être évolué pourra entrer et toucher et goûter et respirer la splendeur du ciel en entrant en lui-même. Pour celui qui en arrive là, ben, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Comme on vient de le chanter, je m'en vais n'importe où. Dieu est tout en tous, il est partout. Il n'y a pas un endroit spécial, il n'y a pas de date spéciale, il n'y a pas de moments spéciaux. Un tel disciple, il est en travail, il avance... à l'infini, dans le monde de l'esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas prêts à recevoir ce message. Je vous le dis, mes frères et sœurs, ils ne sont pas prêts à recevoir ce message. Et ce ne serait même pas raisonnable de leur dire d'abandonner du jour au lendemain les expressions matérielles extérieures de leur religion pour pouvoir adorer comme Dieu veut être adoré. L'évangile éternel n'étant pas rétablis dans leur cœur, ils ne savent pas ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. La plupart ne sont pas prêts. Et je crains fort que jusqu'au retour de Jésus, il n'en soit encore qu'à toujours avoir besoin de certaines formes matérielles pour adorer Dieu, de lieux spécifiques, d'images, d'objets de culte, de certaines périodes dans l'année. Mais nous, mes frères et sœurs, nous, ça c'est important, nous. Nous devons comprendre que toutes ces choses ne sont que des expressions, des formes, mais qu'elles ne sont pas la religion, qu'elles ne sont pas la vraie spiritualité en elles-mêmes. Alors c'est vrai qu'on vit dans les formes, nous-mêmes nous avons une forme. Alors bon, mais ce n'est pas ça la vraie religion, ce n'est pas ça la vraie spiritualité. Au-delà des formes, ils doivent chercher le principe de vie, l'esprit, qui est la puissance qui peut rendre vivant et qui peut exaucer nos prières. L'essentiel, c'est de s'habituer à tourner nos pensées vers Jésus afin qu'il n'habite pas seulement en nous, mais qu'il agisse par nous. Pas seulement pour faire des miracles, mais aussi pour s'arrêter au stop. Jésus respectait la loi. Maintenant, c'est certain qu'un lieu qui est consacré à la prière, ça nous met plus en condition pour communier avec Dieu que la salle d'attente de chez le dentiste, où tu as tous les pépères et les mémères qui discutent, ou alors un endroit où les gens aiment se retrouver pour discuter, pour se distraire, passer le temps, ou les bistrots, si vous voulez. C'est vrai que c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'aller simplement, voilà, marcher dans la nature. Je me rappelle, j'avais fait une prédication au sujet de marcher lentement, tranquillement et tout, et écouter et tout. Et c'était foutu de moi l'autre, là. Voilà, c'est comme ça. L'essentiel, c'est vous. Si vous n'avez pas conscience d'être le temple du Saint-Esprit, c'est en vain que vous priez. Parce qu'avant, ça pouvait marcher. Mais Jésus dit, le temps est venu maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça maintenant, et ce n'est pas autrement. C'est pourquoi on doit introduire en nous-mêmes l'ordre, la pureté, la lumière, afin que, où que vous soyez, votre prière puisse s'élever au trône de Dieu. Qu'elle puisse s'élever au trône de Dieu, où que vous soyez. Parce que vous êtes, vous-même, vous avez fait de l'ordre, vous avez mis de la lumière, vous avez mis de la pureté, vous vous êtes éloigné de ce qui n'est pas correct. Vous voyez ? Alors, de même qu'il ne doit pas y avoir un lieu où adorer Dieu en esprit et en vérité, il ne doit pas y avoir non plus de moment. Par exemple, là, nous nous réunissons le dimanche à 10h30 pour le culte. Mais nos frères et sœurs qui nous ont devancés là-bas dans le sud-ouest, en ce moment, ils sont sûrement au marché. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Ils écouteront la prédication sur Internet tout à l'heure. Pendant qu'on sera peut-être en train de regarder Star Wars avec les jeunes. Parce que cet après-midi, je vous mets dans la confidence, on regarde Star Wars. Voilà, le dernier qui vient de sortir en DVD. Vous avez vu, les coquins, ils l'ont sorti en Blu-ray. Et j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'est pas encore ? Il n'est pas sorti en 3D ? Ah non, il sortira en 3D seulement à Noël. Vous voyez, les commerciaux, ils sont plus avisés, les gens du monde, hein, dans leurs affaires, que les chrétiens. Les chrétiens, c'est des grosses nouilles, ils ne sont pas avisés. Ils sont... Ah là là, vous allez me dire, c'est bassement commercial. Oui, mais au moins, ils réussissent. Même si c'est quand même un peu du vol, hein, faut dire. Nous, Dieu ne veut pas qu'on vole, il ne veut pas qu'on triche. Et ça, c'est bon. Il ne doit pas y avoir de moment. Chaque religion a choisi un moment, un jour particulier, réservé au culte. Pour les juifs, c'est le samedi. Pour les chrétiens, c'est le dimanche. Pour les musulmans, c'est le vendredi. Alors, je ne vous dis pas, quand on voyage en voiture, moi j'ai fait le voyage depuis la France jusque dans le sud de l'Inde, alors on traverse toutes sortes de pays avec toutes sortes de religions. Alors, on tombe toujours dans le pays où c'est dimanche, en quelque sorte. Alors, ça peut être dimanche, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et puis, tout est fermé. Donc, il faut faire très attention, quand on arrive dans un endroit, d'avoir tout ce qu'il nous faut sur nous. Parce que sinon, à cause de la religion, on pourrait ne plus bouffer, ne plus rien. Parce que tout est fermé. C'est rigolo, la religion. Mais en vérité, il n'y a aucune différence entre les jours. Voilà ce que nous dit... le Nouveau Testament, il y a aucun... aux yeux de Dieu, tous les jours sont égaux, sacrés et bénis. Bon, alors, c'est intelligent de dire, telle et telle heure, on va se réunir pour étudier la parole de Dieu. On pourrait très bien dire, écoutez, nous avons tous le même Saint-Esprit, il va vous inspirer à quelle heure faut venir pour quand Michel va prêcher. Mes pauvres enfants. Non, il faut quand même être logique, et c'est bien qu'on ait des moments. Mais il ne faut pas s'y attacher. Ce que je veux dire par là, c'est si vous passez 6 jours à oublier Dieu dans vos occupations, pire, dans vos préoccupations, dans vos activités matérielles, prosaïques, sportives et autres, et le 7e, enfin, pour vous rappeler que Dieu existe, et pour vous tourner vers l'huile et ça n'a aucun sens. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Voilà ce que Jésus disait à cette femme samaritaine. Mais il ne lui a pas expliqué tout ça, il lui a juste dit, boum, viendra le jour et il est déjà venu. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, le septième jour dépendra de la façon dont vous avez vécu les six autres jours. Même si vous avez la plus belle église avec le meilleur prophète, le meilleur pasteur et tout ce que vous voulez, si vous avez passé six jours sans penser à Dieu, juste une petite prière à table et puis une petite lecture le soir avant de vous endormir ou le matin avant de partir au travail, et puis c'est tout, puis le reste du temps c'est l'argent, le pognon, les amis, le nunia, et ben vous allez arriver au culte complètement parasité. Et vous n'arriverez pas à adorer Dieu en esprit en vérité parce que vous n'avez pas purifié votre cœur. Purifier son cœur, c'est mettre Dieu en avant en toute chose. Amen. Donc le septième jour, dépend que ce soit un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, peu importe, le septième jour dépendra de la façon dont vous avez vécu les six autres jours. Il ne faut pas se leurrer. Donc, dans la vraie Église de Jésus-Christ rétablie, on pratique la religion en esprit et en vérité partout, tous les jours, 24 sur 24, parce que nous avons conscience d'être son temple. On m'a reproché de vouloir construire un temple. J'ai dit le mot temple, mais je n'aurais jamais dû dire le mot temple. C'était un endroit simplement où on voulait mettre un baptistère. Et puis, voilà, j'ai dit le mot temple. Ah ! Au secours ! Au secours, les levées de boucliers. Mais bien sûr que je sais que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. C'est moi qui vous l'ai appris que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors arrêtez un peu, s'il vous plaît. Nous l'adorons partout, tous les jours, 24 sur 24, vous voyez? On ne peut pas vivre et adorer Dieu en esprit et en vérité si on reste accroché là, à nos trucs, à nos moments, à nos machins, à nos lieux. On ne peut pas. Le sanctuary, c'est vous. Le sanctuaire, c'est vous. Ce n'est pas le château. Ce n'est pas la communauté. C'est vous-même. D'abord, il n'y aurait pas de communauté sans vous. Parce qu'aujourd'hui, Jésus s'est incarné en vous. Incarné, ça veut dire il est entré dans votre chair. C'est cela que ça signifie, il vit en vous. Il s'est incarné en vous. Jésus était Dieu incarné dans une chair semblable à la nôtre, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, par son esprit, en vérité, il veut vivre en vous et par vous. Il veut prolonger ses jours par vous. Il n'a pas d'autre main que les vôtres. Il n'a pas d'autre sourire que les vôtres. Quand Jésus, homme, est né, il a dû croître en stature et en sagesse, nous dit la Bible. Eh bien, de même, depuis que Christ vit en nous, nous avons à travailler pour que sa nature divine étende son pouvoir sur notre nature humaine. Il avait une nature humaine. Il a dû croître en stature et en sagesse. Eh bien, c'est la même chose. Sauf que nous avons fait une expérience et que nous sommes nés de la chair alors que lui était né de l'esprit au départ. C'est en cela qu'il est le Fils unique. Et c'est ça, adorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu. C'est à travailler pour que sa nature divine étende son pouvoir sur notre nature humaine. C'est ça, notre travail. C'est ça, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est ça. C'est se purifier, c'est s'arrêter au stop. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que non seulement c'est dangereux pour elle, mais c'est dangereux pour les autres. Et puis, c'est un très mauvais témoignage. Adorer, ce n'est pas lever les mains au ciel et dire « je te loue, je t'adore » et puis trembler un peu, tout ça. Ça, c'est une forme dans un moment. Notre adoration, elle consiste à être digne de porter son nom devant les anges qui nous regardent. Et adorer, c'est faire les choses en son nom. Tout ce que vous ne pouvez pas faire en son nom, c'est une insulte à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que vous ne pouvez pas faire en son nom, c'est exactement le contraire de l'adoration. C'est terrible. Jésus, c'est Dieu qui est venu dans la chair à un moment précis de l'histoire pour accomplir une œuvre particulière. Il a dit « Je suis venu pour cette œuvre ». Laquelle ? La croix. Mais il a fait d'autres choses. Mais il a fait cela en particulier. C'était son œuvre particulière. Et aujourd'hui, le même Dieu est venu pour accomplir son œuvre dans ce moment précis de l'histoire humaine, en vous. Il fait quoi en vous? Est-ce qu'il dort dans votre barque? Ne pas accomplir son œuvre, c'est cela, ne pas adorer Dieu, c'est cela, ne pas le louer. Il y avait une sœur pentecôtiste à Lausanne où j'allais chez Bouchamy. Alors elle disait, Seigneur, tous les dimanches, on y avait droit. Seigneur éternel, notre Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer. Seigneur, notre Dieu, comment ne pas te louer, comment... Ben, voilà. Elle lui demandait comment il fallait faire pour ne pas l'adorer. Non, je plaisante. Ne pas accomplir son œuvre, ne pas le laisser agir au travers de nous, c'est ça, ne pas adorer Dieu. Maintenant, au lieu de se pénétrer de cette vérité, les chrétiens ont passé des siècles à célébrer la divinité de Jésus et à condamner les autres religions, certains allant même jusqu'à exterminer tous ceux qui n'adoraient pas comme eux. C'est fou quand même. Ce qu'il nous faut, c'est suivre l'exemple de Jésus. Jésus n'a pas construit de temple, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, prêchait partout, dans les rues, dans les terrasses des bistrots, il allait chez les gens qui l'invitaient, partout, il faisait des miracles, même les jours où il ne fallait pas. Même les jours où il ne fallait pas. Parce que la religion disait les jours de sabbat, de Shabbat, pardon. Faut pas. C'est pas glop. Vous voyez comment la religion embête. En fait, les églises, par leurs attitudes, ont limité la diffusion du message de Jésus. Il suffit de simplement bien lire les évangiles pour comprendre ce qu'il faut retenir de ce message. Mais les églises ont fermé les yeux sur certaines vérités, et elles en ont fabriqué d'autres. Et puis voilà, puis ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Alors nous voulons l'évangile rétabli. Nous ne voulons plus tout ce fourbi religieux. Il y a un homme qui m'a écrit qu'il a écouté avec tremblement mes prédications, vous savez, les pierres de Daniel au sujet de la Bible et tout ça. Il dit, mais en fait, vous avez du courage. Non, parce que j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à gagner non plus, mais j'ai rien à perdre. Si, gagner, si quand même, parce que j'aurai ma récompense pour avoir dénoncé des choses et pour avoir dit la vérité. Mais qu'est-ce que je peux perdre? Des faux amis? Ça m'est complètement égal. Au moins, comme ça, je vois tout de suite qui sont les vrais. Ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi nous suivons le message de l'Évangile éternel, celui qui est rétabli. Celui qui est rétabli. Que Dieu nous vienne en aide. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Cette semaine, j'ai lu une petite histoire et j'ai pensé que ça serait bien pour terminer cette prédication. Vous ferez le lien entre cette petite histoire et ce que je vous ai dit et vous comprendrez la chose. Voilà le texte, je vous le lis. L'adversaire est avisé, pas seulement le diable, pas seulement les démons, mais aussi les gens. Chaque fois qu'il le peut, l'adversaire saisit son arme la plus maniable et la plus efficace, l'intrigue. Quand il l'utilise, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que les autres travaillent pour lui. Vous voyez, il distille des choses, dit des choses, et puis les autres, voilà. Avec des propos mal orientés, on peut détruire des mois de dévouement, des années de recherche de l'harmonie. C'est ce qui s'est passé ici. Des mois et des années d'efforts, de bonnes choses. Non, on s'arrête uniquement sur les trucs soi-disant négatifs. Et là, on intrigue. Et on veut être le calife à la place du calife. Fréquemment, le serviteur de Dieu est victime de ce piège. Il ignore d'où vient le coup. Il n'a aucun moyen de prouver que la manœuvre est mensongère. L'intrigue ne reconnaît pas le droit à la défense. Elle condamne sans aucune forme de procès. Alors le serviteur de Dieu supporte les conséquences et les punitions non méritées, car la parole a du pouvoir et il le sait. Mais il souffre en silence et il n'use jamais de la même arme pour attaquer son adversaire. Un serviteur de Dieu n'est pas lâche. Il est donc un adorateur en esprit et en vérité. Quand on est un adorateur en esprit et en vérité, l'adversaire rencontre qui quand il vient à notre rencontre? Il rencontre Jésus. Je me rappelle toujours cette phrase de frère Osborne qui prêchait sur la guérison et qui avait dit un jour que quand la maladie vient frapper à sa porte, il dit à Jésus, « Jésus, va ouvrir la porte. » Quand le péché vient frapper à ta porte, envoie Jésus ouvrir la porte. Quand un adversaire vient avec une intrigue, envoie Jésus répondre à la porte. Ne te défends pas toi-même. C'est peine perdue. C'est inutile. C'est un autre esprit. Ce n'est pas celui qui est en vous. Laissez l'esprit qui est en vous se battre à votre place. Vous n'avez pas la force vous-même. Laissez Dieu prendre soin de cette affaire. Laissez Dieu faire. Et puis c'est amusant même, c'est rigolo. Quand on voit comment Dieu fait, on entre dans la louange parce qu'on le voit agir et c'est merveilleux. Donc, je lisais aussi la pensée de, vous savez, sur le petit calendrier que Rachel nous donne toujours, c'était au sujet de l'histoire de Job. Je ne sais pas si vous avez lu, c'était la pensée de l'autre côté de la date de hier, c'était l'histoire de Job. Alors, il disait, quelle étrange histoire! Alors j'ai dit, mais non, ce n'est pas étrange du tout. C'est le pain quotidien du serviteur de Dieu. Ce n'est pas une étrange histoire. C'est comme ça que ça se passe toujours. C'est comme ça que ça se passe toujours. Et c'est bien que ça se passe comme ça. Ça nous ouvre l'esprit, ce qui permet qu'on adore en esprit et en vérité. Qu'on adore en étant conscient de ce que c'est que la vérité. On est conscient de ce que c'est que la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Pas du verbe « suivre », mais du verbe « être ». Et nous devons aussi être la vérité, mais pour pouvoir être la vérité, il faut suivre du verbe « suivre » la vérité. Alors Jésus dit « Je suis la vérité », moi je dis aussi « Je suis la vérité », mais ce n'est pas le même verbe. Mais Jésus est en moi, et ce qu'il faut, c'est qu'il devienne de plus en plus moi. Et que moi-même, je disparaisse. Ah, si je disparais, j'en connais beaucoup qui vont être contents. Vous voyez, mes frères et sœurs, adorer en esprit et en vérité, c'est tout autre chose que d'avoir une religion. C'est tout autre chose. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu et nous n'aurons jamais de religion. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur de nous éclairer jour après jour et de nous conforter dans la pensée que tu mets dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu bénisses toute l'équipe là-bas dans le sud-ouest, et qu'ils puissent être réjouis en écoutant cette parole, et qu'ils se sentent des gens importants parce que choisis par toi. Je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message enregistré, et je te demande qu'ils soient réjouis parce qu'ils ont conscience d'avoir été choisis par toi. Merci, Seigneur, c'est un immense honneur, parce que qu'est-ce que c'est que nous sommes? Nous sommes quoi? Quand on regarde à l'apparence, bon, c'est pas terrible. Eh bien, Seigneur Jésus, toi, tu regardes à notre cœur et tu sais ce qu'il y a dans notre cœur. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Toi, et même nous, des fois, on est surpris de voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu rendes parfaite l'œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Sois béni. Merci mon Dieu. Amen. Les musiciens vont s'approcher, on va chanter et adorer notre Dieu ensemble en parlant langue, en le louant aussi dans notre langue maternelle. Que Dieu vous bénisse. Et à vendredi. Vendredi, ça sera la suite du message sur les pierres de Daniel. Et ça va être très intéressant aussi. J'espère que vous aimez. Écrivez-moi pour me dire ce que vous pensez. Allez, au revoir.